Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il avait rendu le ski de compétition, moins dangereux. Il avait imposé en France le ski parallèle. Il fut à l'origine de la création de la station de Courchevel. Ce médaillé olympique, Jeux olympiques d'hiver, ce triple champion mondial à Chamonix, descente, slalom, combiné alpin, était l'invité de Michel Chouchan le 19 février 1995 sur France Culture. Comment devient-on champion ?
Mémoire du siècle de Émile Allais, ancien champion du monde de ski alpin, par Michel Chouchan. Réalisation François Braignier. Lorsque nous avons rencontré Émile Allais dans son magasin de Flaine, en Haute-Savoie, chacun ici guettait avec anxiété les premières chutes de flocons et les canons à neige tenaient le long des pistes, objets maîtrisés par l'homme quand la nature paraît ne pas lui répondre. On a bien oublié que les premières dameuses surprirent le public et que le ski, sport de prestige et de plaisir intense pour les amoureux des espaces blancs, a bénéficié de techniques et de connaissances sophistiquées. Émile Allais, silhouette de cavalier râblé, porte jeune ses 83 ans. S'il aime évoquer ses victoires, ses quelques chutes, une vie mouvementée, il est toujours aussi attaché à sa montagne. Il en demeure un conseiller écouté en matière d'équipement, de sécurité, de projet, qui la préserve tout en améliorant le confort de ses visiteurs. Émile Allais, champion du monde en 1937, en descente, combiné et slalom, se souvient pour nous de ses premières glisses.
Je suis monté sur des skis et je crois que j'avais 6 ou 7 ans. 7 ans, je pense.
C'est déjà assez âgé ?
Mais oui, parce que le ski n'est pas connu. Hein. Moi, du reste, mes premiers skis, mes parents avaient une boulangerie. C'est le mitron, enfin un employé de mes parents, qui m'a courbé de planches de frêne et, dans le fournil. Et puis, je me suis mis là-dessus avec des courroies pour tenir les pieds. Et puis voilà, c'était mes premiers skis.
Et à Megève, c'était quelque chose d'exceptionnel de monter sur des skis ou bien c'était relativement courant? Comment ça se passait?
Oh là, à ce moment-là, c'était tout à fait exceptionnel. Hein. C'était avant la guerre de 14, donc on voyait deux ou trois Parisiens qui avaient, je ne sais pas où, peut-être en Suisse, appris à faire du ski et qui venaient faire quelques promenades, mais c'était tout, quoi. Et il y avait très très peu de skieurs et on les regardait même comme des gens un peu extraordinaires, de les voir manœuvrer sur des skis.
Alors en fait, vous êtes monté sur ces fameuses planches courbées avant vos parents?
Ah ben oui, eux, ils n'ont pas fait de n'importe quel ski. Jamais, par contre, j'avais un oncle, ça c'est pendant la guerre, qui avait fait donc la guerre en Russie. Et lui, il a appris à faire du ski. Et après, j'ai fait du ski avec lui et j'ai fait des promenades, justement, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de remontée mécanique, donc on faisait des promenades. C'est-à-dire qu'on montait au sommet d'une montagne. À Megève, c'était Roche-Brune ou le Mont d'Arbois. On faisait une montée et une descente par jour. Et je l'accompagnais quelquefois, quand j'avais le temps, je l'accompagnais.
Alors le plaisir, c'était de glisser après avoir bien monté à pied?
Oui, oui, c'était bon. Mais on prenait plaisir dans les deux sens, hein, parce que bon, ça faisait en même temps une promenade à la montée, et puis bon, la descente, c'était jamais bien. C'était presque le plus difficile, parce que bon, bien sûr, la neige n'était pas très bonne, puisqu'elle n'était pas damée pour pratiquer. Et l'équipement n'était pas très très bon, les chaussures et les fixations étaient plutôt très très souples. Alors on dirigeait très mal les skis, quoi. Et on employait beaucoup à ce moment-là les méthodes norvégiennes qui étaient le Telemark et le Christiania.
Vous avez fait du ski de fond, du ski de randonnée, ce qu'on appelle maintenant le ski de fond à la randonnée.
Oui, ben j'ai commencé par là. Étant donné que mes premières compétitions ont été en ski de fond et en saut, parce que c'était deux disciplines qui étaient le plus connues au début du ski. Les descentes n'étaient pratiquement pas, n'étaient pas connues, quoi. On a commencé à faire de la descente en 1930, par là. Enfin, moi, à peu près à cette époque-là, j'ai commencé à m'entraîner à la descente à cette époque-là.
Du côté des années 20, alors ?
Oui, oui, c'est, voilà, exactement.
Alors, à quel plaisir est-ce que ça correspondait ? C'était le sport ? C'était la montagne ? C'était quoi ?
Oh, c'était, bon, les deux, quoi. C'était, vous voyez, c'était la promenade. C'était un peu comme les alpinistes qui ont envie de monter au sommet d'une montagne. Et puis, c'était quand même... Moi, je trouve que c'était très agréable parce qu'on emportait le déjeuner. On déjeunait dans des chalets. Enfin, on s'arrêtait dans un chalet et on déjeunait. Et puis, à ce moment-là, on redescendait, quoi.
À quoi ressemblait Megève à l'époque ?
Oh ben Megève était un tout petit village. Moi, ce qui m'impressionnait, ce qui me passionnait à ce moment-là, quand j'avais autour de 10-12 ans, c'était quand le chasse-neige passait. Parce que là, on mettait une quarantaine de chevaux devant un chasse-neige, un triangle, on appelait ça le triangle. Alors là, c'était la grande fête parce qu'on ouvrait la route jusqu'à Salange, parce qu'à ce moment-là, il tombait 30 à 40 cm de neige. Il n'y avait pas d'engin autre que les chevaux pour déneiger la route. Et ça, c'était vraiment des souvenirs formidables, avoir tous ces paysans qui venaient avec leurs chevaux et atteler à ce chasse-neige.
Et puis, les années passent, 1936.
Oh ben c'est bon, un peu avant, moi j'ai progressé en ski après, parce que j'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins. Donc à ce moment-là, à peu près cette même époque, je suis rentré dans l'équipe de France parce que Megève s'est développé au point de vue ski. D'abord, on a eu la baronne de Rothschild qui a construit un hôtel qui était l'hôtel du Mont d'Arbois, qui était un hôtel de luxe où il y avait des moniteurs de ski. Le ski club de Paris avait organisé des écoles de ski aussi à Megève. Alors moi, je me suis donc perfectionné avec ces moniteurs, surtout un ami qui s'appelait Otto Lang. Et là, j'ai appris vraiment la compétition. Et au cours des compétitions, j'ai fait des progrès. Et on m'a mis dans l'équipe de France.
Mais là, c'est en descente.
C'était en descente. Descente et slalom.
Vous n'avez pas fait de compétition en ski de fond ou en randonnée ? Enfin, en randonnée, non, mais en saut ?
Ah si, j'ai fait des bons en saut, j'étais pas très bon. En fond, j'étais plutôt moyen, mais j'ai fait des courses de ski de fond de 30 km, quoi. Je crois que ça m'a formé une bonne musculature par la suite. Et on courait souvent en équipe de trois. Et c'était, ça aussi, c'était sympathique. Je me souviens toujours d'une course, je ne me souviens plus de l'année, mais c'était au Rousse, dans le Jura. Et là, c'était une course de 30 km et j'avais mal farté mes skis et je ne glissais pas du tout à la descente. Et mes deux coéquipiers étaient partis et moi, j'ai dû gratter mes skis, m'arrêter, gratter mes skis, puis repartir. Et je me souviens très bien, quand je suis arrivé, on traversait une route nationale et j'avais vu les Rousses 15 km. Alors là, ça m'avait coupé les jambes. Et je peux dire que je me suis assis parce qu'il y avait un ravitaillement, il y avait du thé, des oranges et du sucre. Je me suis assis sur un cajot et les coureurs qui passaient, qui me connaissaient bien sûr, ils me disaient « Mais pourquoi tu t'arrêtes ?» J'ai dit « Moi, j'en peux plus. » J'avais encore la moitié du parcours à faire. Et j'ai bien fait de me ravitailler parce qu'après, eux qui ne s'étaient pas arrêtés, moi, j'avais repris des forces et j'en ai rattrapé pas mal. Enfin, je ne suis pas arrivé premier quand même.
Mais alors, ça tenait à quoi ? À une bonne musculature, un battement de cœur exceptionnel. Comment est-ce qu'on devient champion ? Comment est-ce qu'on arrive à des performances de ce type ?
Oh, moi, il faut dire que j'étais un peu... j'étais un fanatique du sport. Et j'ai fait aussi beaucoup de courses en vélo régional, quoi. Alors, vous voyez que à ce point de vue-là, j'avais la passion, quoi. J'avais vraiment la passion de faire n'importe quoi. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la barre fixe, j'ai fait du cheval d'arçon. Enfin, j'ai fait tous les sports m'intéressaient.
Et quelques études aussi ?
Oui, bien sûr, quoi, comme tout le monde, quoi. On allait jusqu'au certificat d'études. Là, c'était le bac de maintenant. Et puis après, on commençait à travailler avec ses parents.
Donc vous êtes devenu aussi boulanger ?
Mais bien sûr, oui. Pendant quelques années, j'ai fait la boulangerie jusqu'au jour où mes parents ont vendu la boulangerie pour s'installer hôtelier comme le ski prenait et comme le tourisme se développait. Donc on a construit un hôtel et là à ce moment-là, bon, ça m'a donné plus de liberté pour, ça c'était aux environs de 1930, donc ça m'a donné plus de liberté pour m'entraîner. Je pense que c'est là où le tournant de ma carrière de skieur.
Du saut aussi. Alors, quelles sont les sensations pour un jeune garçon qui commence à s'entraîner au saut ?
Pour moi, le saut est resté un des sports le plus magnifique, le plus. Enfin, on ne sautait pas à la distance actuelle, bien sûr, mais même à des distances de 50 mètres à cette époque-là, on avait vraiment l'impression de voler. Et puis, moi, je trouve que c'était une sensation formidable. Je n'étais pas très doué au point de vue style, mais vraiment, j'adorais le saut. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sauteurs, parce que moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel de voler pratiquement, quoi. D'une façon naturelle.
C'est le rêve d'Icare. Hein. On vole, on est le maître du monde.
Oui, exactement, parce qu'à partir d'une certaine distance, vraiment, on s'appuie sur l'air, vraiment. On se sent porté par l'air, et puis il faut résister, il faut se pencher en avant, sinon ben, on va sur le dos, quoi. Même en descente, je n'ai pas eu ces sensations-là, parce que là, ce moment... la distance qu'on parcourt en l'air après un tremplin, je trouve que c'est fantastique.
Et à quel moment est-ce que l'impression est la plus forte ? Au moment où on quitte le tremplin, où on s'élance ?
C'est un peu après, quand on prend la sensation qu'on est supporté un peu par l'air. Bon, au départ du tremplin, c'est toujours l'émotion principale, parce qu'il faut partir au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, mais c'est après. C'est au moment où on suit la courbe du terrain là, et qu'on voit la pente. Alors là, c'est fantastique.
Vous n'avez jamais eu peur ?
Oh, bon, oui, bien sûr qu'on a peur, comme tout le monde dans les descentes, quand les descentes sont très difficiles ou certains tremplins qui sont aussi difficiles, bien sûr qu'on a peur. Aussitôt le départ pris, tout ça disparaissait. On est en action et on pense qu'à la descente.
Alors on revient à cette fameuse date de 1936, vous avez 24 ans et vous voilà médaille de bronze.
Oh là, c'était impressionnant, parce que c'était à l'époque, la fameuse époque hitlérienne. Et les Allemands avaient organisé ça en très grande pompe, comme ils faisaient dans toutes les manifestations. Comme c'était pas très loin de Munich, il y avait à peu près 20 000 spectateurs autour des courses. Et ça m'avait un peu paralysé, surtout au slalom. Bon, la descente, on part au sommet de la montagne, il n'y a pas trop de monde. Alors là, je me souviens, au départ du slalom, je crois que quelqu'un aurait pu me pincer, je ne l'aurais même pas senti. Tellement j'étais impressionné. Surtout qu'avant moi, partaient des Allemands. Les gens hurlaient, enfin applaudissaient et tout ça. Et au moment du départ, pendant deux ou trois portes, je ne savais pas si j'étais vraiment sur mes skis. C'était incroyable.
Vous aviez suivi, vous, la montée du nazisme. Vous étiez au courant de ce qui se passait depuis les années 20 et plus précisément depuis 1933.
Oui, on suivait un peu, parce que nous avions des camarades allemands avec lesquels on courait et on voyait un peu ce... En tant que sportif, on ne se rendait pas trop compte, mais on se rendait compte quand même que ces Allemands manquaient de beaucoup de choses. Par exemple, on leur apportait des pommes, des oranges. Les oranges n'étaient pratiquement pas connues à ce moment-là. C'est la seule chose qu'on voyait. Et puis, quand même un peu, quand on faisait des courses en Allemagne, eh bien, il y avait toujours une présence militaire très importante. Et ça nous... Pas dire que ça nous choquait, mais ça nous impressionnait.
Mais vous ne connaissiez pas encore précisément le risque et déjà les atrocités qui étaient commises ?
Non, pas du tout. Mais moi, quand je venais, une fois, je me souviens, en 1938, je revenais de Pologne et je me suis arrêté à Berlin. Et en dehors de Berlin, dans un stade, il y avait je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 ou 400 chars allemands. Et quand je suis venu en France, j'avais dit, oh là là, mais il me semble qu'ils sont en train de s'armer, etc. Et ils m'ont dit, oh, c'est rien, ce que tu as dû voir, c'est des chars en carton. Et après, on s'est bien aperçu que ce n'était pas des chars en carton. Et je me suis toujours souvenu de ça, des gens, quand ils se rendaient... Nous, on se rendait compte parce qu'on voyageait. Mais je pense qu'en France, on ne se rendait pas compte de la puissance que commençait à avoir le Reich à ce moment-là.
Comment est-ce que vous avez réagi en 1938?
En 1938, le championnat du monde était en Suisse, où j'ai gagné le combiné. Mais en 1939, à Zakopane, qui était en Pologne, là, je me suis cassé une jambe. Et donc, là, ma carrière s'est arrêtée. Après, il y avait la guerre, donc ça a été terminé. Moi, dans le fond, après ces voyages, je me rendais compte que quand même la gravité et que certainement on allait... Je ne sais pas si vraiment je pensais à la guerre, mais je pensais que quelque chose allait arriver.
Revenons un petit peu en arrière, en 1937, vous êtes triple champion mondial à Chamonix.
Moi, je vous dirais que quand j'ai gagné à Chamonix, on m'a offert un appareil photo. Oui. Bon, alors, mais moi, j'étais à ce moment-là, j'étais très content, j'étais ravi. Oui, ça a été une aventure, enfin un peu, parce que au début de saison, je marchais pas très bien. Du reste, je me suis blessé au cours d'un entraînement. Et dans les premières courses, je ressentais donc cette douleur au genou. Et donc, j'avais fait aucune performance avant. Et je pense que les Français comptaient pas du tout sur moi. Bon, avant, j'avais naturellement l'année avant, j'avais donc fait les Olympiades. Mais il faut bien dire que même ma médaille de bronze, quand je suis arrivé à Megève, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fichu là-bas ?» Parce que ça avait aucune valeur. Ils avaient bien raison, c'était que la première place qui comptait. Donc à Chamonix, je ne pense pas qu'on comptait tellement sur moi. Et en plus, je pense que ça m'a plutôt servi parce que j'étais peut-être moins contracté, j'avais moins de stress pour partir parce que je disais je ferai mon mieux et puis c'est tout quoi. Et puis ça a bien marché quoi.
Et vous étiez combien en équipe de France à l'époque?
On était 6, oui. Et en plus j'avais un camarade, Maurice Lafort, qui a fait deuxième, donc c'était vraiment un succès formidable pour les Français. Mais ce qui m'avait surtout impressionné, c'est que le temps était désagréable, il neigeait, il faisait mauvais, et il y avait les spectateurs, il y en avait tout le long de la piste, c'était incroyable. Il y en a qui étaient venus d'Annecy, de Grenoble, de Lyon, par le train, et il y avait une chaîne de spectateurs du départ à l'arrivée, beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Et donc, du fait de ma victoire, les gens étaient vraiment très heureux. Quoi. Le soir, il y avait la grande fête à Chamonix. C'était vraiment formidable.
Quel est le type de descente que vous préférez? Combiné, alpin, descente, slalom?
Moi, j'aimais surtout la descente. Bon, à ce moment-là, il y avait descente et slalom. J'aimais surtout la descente et heureusement, à ce moment-là, j'avais fait quelques progrès en slalom. Ça m'a permis aussi de gagner le slalom. Mais ma préférence restait toujours à la descente parce que c'est plus grisant, c'est plus athlétique. Le slalom est quand même très difficile et très risqué, hasardeux, si vous voulez. Il y a toujours, peut-être, à moins d'être très très fort au-dessus des autres, il y a toujours une petite part de chance. On a toujours tendance à passer le ski d'un côté d'un piquet au lieu de mettre les skis du même côté. Vu la vitesse, c'est assez délicat.
La vitesse, à l'époque, vous faisiez quelle vitesse?
Bon, à Chamonix, la vitesse n'était pas très grande parce que la piste n'était pas très bien préparée, puisqu'à ce moment-là, on n'avait pas d'engin pour les préparer. donc qui était vaguement damé, mais à Engelberg ensuite, là, au championnat du monde de 38, on passait déjà les 110 km à l'heure. Donc avec l'équipement, je pense avec l'équipement qu'on avait à l'heure à ce moment-là, vu la préparation aussi des pistes qui n'étaient pas très très bonnes, c'était quand même pas mal, à mon avis.
Et à cette époque-là, vous aimiez toujours autant ça ?
Ah oui, oui. Maintenant, il y a autre chose qu'il faudrait... Bon, même avec cette vitesse-là, ce qui était très dangereux, c'est qu'on n'avait pas les protections, il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien au bord des pistes. Du reste, même les... Je raconte souvent aux jeunes coureurs, j'ai fait des courses comme ça, des courses un peu régionales avant, quoi. Eh bien, il n'y avait même pas de porte. Il y avait une porte au départ, il y avait une porte à l'arrivée, et puis débrouillez-vous, passez où vous voulez. Et la FIS, c'est-à-dire ce qui valait le championnat du monde en 35, j'avais fait deuxième, et il n'y avait pas de porte. On partait au sommet de la montagne et puis il y avait une porte au départ, un portillon de départ et puis une banderole à l'arrivée, c'était tout.
Et c'est ça qui vous a sensibilisé aux questions de sécurité ultérieurement ?
Oui, parce que, bon, petit à petit, heureusement, parce que forcément la vitesse a augmenté et puis ensuite, bon, ben, on a quand même pris, on a contrôlé quand même des passages qui étaient trop rapides et ça a été quand même un bien pour le ski, quoi.
Mais j'imagine que vous avez été témoin d'accident.
Oui, moi je me suis cassé les deux jambes, oui, pas en même temps, mais au cours de ma carrière. Et ce qui est drôle, c'est que la première jambe, j'avais eu un raccourcissement de 3 cm, et quand j'ai cassé l'autre, on m'a mis à la même longueur. Alors j'ai perdu, dans le coup, j'ai perdu 3 cm. Mais enfin, ça c'est... Non, mais on n'avait pas de fixation de sécurité. Alors ça, c'était ou les skis qui cassaient ou c'était la jambe. Alors ça, c'était aussi un problème.
On imagine bien que les habitants de Megève étaient très fiers de leur triple médaillé. Mais quel était votre sentiment à vous ? Quelle était votre impression lorsque vous êtes monté sur le podium ?
Vous comprenez, ça, c'est une chose à laquelle on pense depuis longtemps, bien sûr, depuis même assez jeune, quoi. On dit, ah là là, si je pouvais, etc.
C'était un rêve que vous aviez quand vous étiez jeune, ça.
Ah oui, je voulais toujours, je me disais, je voyais, bon, je pensais aux coureurs du Tour de France, parce que j'allais les voir quand ils passaient, et moi, ça, du fait que j'étais un fanat des sports, je me disais, oh là là, c'est bien, enfin, etc., etc., quoi. Et le jour où ça vous arrive, voilà, c'est arrivé, quoi. On est vraiment très content. À l'arrivée, après l'arrivée, tu es champion. Enfin, parce que j'avais pas mal d'avance sur les autres, et mes principaux concurrents étaient descendus avant moi. Et vu l'avance que j'avais, on m'a tout de suite dit, tu es champion du monde. Bon, ça vous tape sur la tête. Et on réagit. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et puis après, c'est la grande joie, c'est le bonheur, quoi. Et puis voilà. Puis on est emporté par les gens qui vous tapent dessus, qui vous félicitent. Puis voilà, quoi.
Mais c'est une scène que vous revivez, là, encore maintenant ?
Ah oui, ça... Non, ça vous marque, ça. Il y a des choses qui vous marquent dans la vie, comme ça, et ça reste quand même, oui. Mais je pense que ce qui m'avait le plus impressionné, je me dirais pas, c'est un jour, ça je le raconte assez souvent, je courais à Saint-Antoine, qui était le fief des Autrichiens, parce que les Autrichiens étaient des formidables skieurs, ainsi que les Suisses à ce moment-là. Et j'ai gagné une course, je partais assez en retard, c'est-à-dire je pense que je devais partir dans les 25 ou je me souviens plus de mon numéro de départ. Et alors tous les bons skieurs, tous les Autrichiens, tous les Suisses étaient passés, et le premier à ce moment-là, avant moi, était un Autrichien. Et tout le monde le félicitait, il avait déjà félicité, et puis pratiquement les gens... commençait à partir de la ligne d'arrivée, et puis moi j'arrive, je le bats, enfin je fais le meilleur temps. Alors j'ai vu des gens qui pleuraient, alors moi je m'arrête, puis je regardais ces gens un peu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé, il y a eu un accident. Alors je me souviens toujours, j'avais un ami français, il dit, oui, l'accident c'est toi, du fait que tu as gagné, c'était un accident. Mais là, j'avais été impressionné. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'on peut prendre ça aussi au sérieux, quoi. Mais ça m'avait vraiment... Mais pour eux, c'était... Et surtout que leur champion, je crois que c'était même leur champion qui était le premier, le champion de ce village de Saint-Antoine, qui était le premier. Et j'ai vu pleurer les gens, j'en revenais pas, quoi.
l'époque, c'était effectivement les skieurs autrichiens qui tenaient un petit peu la tête du ski international, avec ce qu'on appelait la méthode autrichienne qui servait aussi à entraîner les Français.
Oui, parce que, je ne sais pas, on était peut-être un peu moins chauvin. Bon, il y avait les Autrichiens et les Suisses qui étaient très forts, les Italiens, quelques Italiens aussi. Les Français ont commencé, jusqu'à Chamonix, on commençait déjà à monter un peu. Bon, moi j'avais déjà fait des places en 35, donc j'étais deuxième, très, très près du premier, en 36, donc médaille de bronze. Mais là, pour nous entraîner, nous avions pris les meilleurs skieurs du moment, c'est-à-dire Rominger qui avait gagné donc, les championnats du monde en 36, et Anton Selos qui était le meilleur slalomeur du moment. Et c'est eux qui nous entraînaient. Alors vous voyez, on avait pas mégoté là-dessus, et je pense que notre succès vient un peu de là. Et là, on avait vraiment fait des progrès.
Et lui, alors, quelle a été son attitude lorsque vous avez gagné au détriment d'un Autrichien ?
Rominger, surtout, il m'a dit « Je savais que tu allais gagner ». Enfin, je ne sais pas s'il l'a... Mais enfin, il me l'a dit tout de suite. Il m'a dit « Je savais que tu allais gagner ». Moi, écoute, je ne savais pas, je t'assure. Et bon, il était très content.
Mais vous avez eu envie aussi de faire évoluer les méthodes, le style.
Après, donc, ces championnats, j'ai commencé à réfléchir au point de vue de la méthode, parce que surtout ce qui m'a fait réfléchir, c'est Anton Selos, qui était un slalomeur formidable et qui skiait vraiment avec les skis parallèles. Et on savait que ceux qui avaient vraiment qui skiaient avec des skis ensemble, enfin parallèles, allaient beaucoup plus vite, surtout en slalom. Et c'est ceux qui gagnaient. On dit tiens, il skie bien, il va gagner. Bon, c'était, ça se voyait. Hein. Tandis que nous étions encore avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire on faisait du stem, on écartait les skis, donc ce qui faisait des freinages inutiles. Alors je me suis dit, mais pourquoi on apprend une méthode qui est pas la bonne ? Bon, déjà, en point de vue compétition, parce que... Et ça nous a mis, avec la fédération, à réfléchir un peu si on pouvait pas trouver un système qui, plus moderne, parce que cette méthode commençait à vieillir. Une autre chose aussi qui m'avait surpris aussi, c'est que dans chaque station, il y avait des écoles de ski qui enseignaient plus ou moins des méthodes différentes. Alors je me suis dit, pourquoi pas unifier en France au moins la méthode.
Vous aviez commencé avec des planches courbées par le mitron de la boulangerie, mais j'imagine qu'au moment où vous êtes devenu champion, les techniques elles-mêmes de fabrication, aussi bien d'un point de vue du matériau, les formes, les fixations, les sécurités, tout ça avait beaucoup évolué.
Oui, au début, naturellement, les skis, même les fixations, c'était de simples courroies qui étaient clouées aux skis. Après, sont venues les fixations qu'on appelait Huitfeld, qui venaient de Norvège. Deux plaques de métal qui traversaient le ski et qui étaient recourbées, donc qui tenaient un peu plus le pied. Mais n'empêche que le talon allait à gauche, à droite, sur les skis et était tenu simplement par des courroies. Après est venue les fixations avec les ressorts, les câbles et les ressorts. Alors on a eu. Les skis aussi ont évolué, c'est-à-dire qu'on y a mis des quarts, parce qu'au début il n'y avait pas de quarts. Alors quand la neige était dure, par exemple, quand on allait faire des promenades et qu'on redescendait sur des pentes qui étaient gelées, eh bien on avait toutes les peines du monde à se cramponner. Alors après on y a mis des quarts, c'était des quarts qui étaient vissés, c'était des bandes de métal vissées sur le côté.
C'est éviter l'usure des skis aussi, j'imagine.
Eh bien bien sûr. Et puis ça permettait de se cramponner. Moi, bien sûr, quand j'ai couru, ça existait déjà. Hein, mais j'ai jamais couru avec des skis qui n'avaient pas de quart. Et puis, pour les skis de fond, c'était la même chose. Nous avions des fixations qui étaient très souples et le pied se baladait. Alors les descentes en ski de fond, alors c'était encore pire, parce que comme ils étaient plus étroits que les autres, les descentes étaient assez difficiles à négocier. Mais le ski a évolué assez vite, d'abord au point de vue de la forme. Bien sûr, le ski de bois est resté assez longtemps, parce que jusqu'en 38, c'était des skis bois faits avec des planches d'hickory. C'est un noyer qui vient d'Amérique, qui est très flexible et très, très résistant aussi. Et Ce qui était très drôle, c'est que, par exemple, mes skis, quand j'ai couru en 37 et même en 38, on les préparait. C'est-à-dire que j'allais avec le menuisier, je disais, tu m'enlèves un peu de bois là, ils sont trop durs là, et on les rectifiait. Maintenant, ça serait impossible, parce que maintenant, les skis sont ou en fibre ou en métal, et ils sont très sophistiqués. Du reste, les skis de coureurs sont faits par leur poids, on considère leur poids, même leur façon de skier, celui qui skie plus en avant, plus en arrière, on les fait d'une certaine souplesse, et on peut dire que pratiquement chaque coureur a des skis différents. Et puis la construction d'un ski est venue maintenant très compliquée. Et je peux dire qu'au point de vue ski de fond, je vais revenir en arrière au point de vue ski de fond. Moi, je trouve que quand on a relancé le fond, c'est-à-dire après Grenoble, c'est là qu'on a recommencé un peu. Et moi, j'ai trouvé que du fait que j'en avais fait, j'ai trouvé que relancer le fond et puis qui a bien pris, j'ai trouvé une chose formidable.
Mais comment ça se fait qu'il y a des modes comme ça? Alors, vous évoquiez les Jeux Olympiques de Grenoble, il y a eu ceux d'Albertville aussi où le fond a été un petit peu relancé. Est-ce que c'est un sport qui est déprécié parce que, après tout, il est peut-être plus populaire?
Je ne pense pas que c'était parce qu'il était plus populaire, mais je crois qu'on l'avait complètement oublié. Bon, on avait l'engouement du ski de descente, il faut dire que, vous comprenez, on pose des skieurs au sommet d'une montagne et puis on se lance dans la descente. C'est très agréable. Mais le fond, on avait pratiquement abandonné la promenade. Par exemple, dans le Jura, on faisait que de la descente, et pourtant c'est des contrées magnifiques pour faire le fond. Eh bien, on avait complètement oublié qu'on pouvait se promener à travers bois ou à travers prés, surtout que c'est très enneigé, le Jura. Eh bien, on avait complètement oublié. Et c'est dommage parce que, à mon avis, au point de vue... D'abord, on risque beaucoup moins d'accidents. Et puis, au point de vue physique, c'est vraiment très, très, très bon. Tout marche, là, les bras, les jambes, le dos, etc. Quoi. C'est un exercice complet. Et je sais que ceux qui ont refait du fond maintenant se font une santé. Il y en a qui ont abandonné même le ski alpin, parce que, au point de vue des risques, quand même, on peut risquer de se faire mal. Eh bien, en ski de fond, il n'y a pas de problème. On a beaucoup moins d'accidents. On a très, très peu d'accidents.
Alors, on revient un petit peu en arrière dans le développement de votre vie. La guerre arrive et vous vous engagez dans les chasseurs alpins. Vous avez des souvenirs marquants de cette période?
Oui, forcément. Bon, moi, j'ai même eu dans ma famille mon beau-frère qui habitait à Nantua et qui était emmené en Allemagne. Bon, il a eu de la chance de revenir, mais ça a été pendant 2 années... assez terrible, puis d'autres qui sont parvenus, puis j'ai des très bons camarades skieurs dans le maquis qui sont restés, quoi. C'était quand même une période très difficile.
Il y avait beaucoup de réfugiés par ici?
Oui, à un moment donné, comme nous étions dans une zone libre, donc beaucoup se sont repliés, et du fait qu'on était assez près de la frontière suisse, donc ils avaient un moyen de s'échapper au cas où il y aurait eu quelque chose, et donc on avait quand même des gens qui étaient revenus vers la montagne. Et puis, point de vue alimentation, il faut dire que nous étions un peu privilégiés en montagne. On pouvait se nourrir plus facilement en montagne que dans les villes.
La mémoire du siècle de Émile Allais, ancien champion du monde de ski alpin.
Tout de suite à la fin de la guerre, j'ai eu des contacts avec des Canadiens qui, étant donné mes succès que j'avais eus à ce moment-là, m'avaient demandé de venir au Québec, enfin au Canada, pour développer une station de ski qui s'appelait Valcartier. Et puis en même temps, j'avais un ami qui était au Chili, et qui m'a aussi contacté pour aller au Chili. Alors d'abord, je suis allé donc au Chili, c'était en 1946, et j'ai découvert un pays fantastique, avec des gens vraiment charmants, une population formidable, et le Chili est resté pour moi. J'ai passé 10 hivers au Chili, et les Andes, qui sont formidables au point de vue terrain de ski, parce que c'est tellement vaste. C'est moins escarpé que l'Himalaya, vous voyez, c'est peut-être un peu plus humain, mais alors il y a des pistes formidables. Alors, c'est-à-dire que je faisais les deux saisons, puisque l'hémisphère sud était opposé à l'hémisphère nord, au point de vue neige. Et j'ai fait 2 ans au Canada, et puis ensuite j'ai rencontré un journaliste important américain qui m'a dit « Mais il faut venir aux États-Unis, vous êtes connu, etc. » Alors là, je suis allé aux États-Unis. D'abord à Sun Valley, qui était une station très huppée, où il y avait toutes les vedettes de Hollywood. Et là, j'ai rencontré des gens formidables comme Daryl Zanuck, bien connu dans le cinéma, avec qui j'ai fait du ski. Et c'était tellement fantastique parce qu'il skiait. Il me demandait des leçons particulières et je l'entraînais. Il se faisait aller un peu plus vite qu'il avait l'habitude. Et comme il skiait toujours avec son cigare, quelquefois il tombait, il accrochait son cigare. Mais il était vraiment, c'était un homme vraiment très sympathique et très simple. Et ensuite, j'ai développé une station qui s'appelle Squaw Valley, où il y a eu les Olympiades et où Jean Vuernet a gagné la descente. J'ai développé cette station qui était très jolie. Ça m'a pris 3 ans. Et ensuite, j'ai fait 2 ans encore dans Sud-Californie, près de Los Angeles. Et là, je suis ensuite revenu à Courchevel, où j'avais mon beau-frère qui habitait Courchevel et qui m'a demandé, il m'a dit, il faut revenir en France, on a besoin de toi, etc. Alors je suis revenu et puis j'ai développé Courchevel. J'ai essayé d'apporter au début les façons que j'avais là-bas aux États-Unis de préparer les pistes, aussi bien l'été que l'hiver. Parce que là-bas, par exemple en Sud-Californie, on prépare les pistes de ski comme un golf. C'est-à-dire que c'est vraiment du gazon. Et ils ont raison, parce que comme ils ont peu de neige, et là-bas avec 20 cm de neige, vous faites du ski sans problème. Parce que les pistes sont tellement bien préparées et bien engazonnées et bien soigné qu'avec très peu de neige, on arrive à faire du ski. Et ici, on ne sait pas encore, on n'en est pas là, mais enfin, petit à petit, ça vient. Alors j'ai rapporté cette méthode un peu à Courchevel, d'aménagement des pistes, et puis bon, ça a progressé. D'abord, on le faisait manuellement, enfin, on dame avec les skis, après avec des rouleaux, et après j'ai fait venir une des premières chenilles à damer américaines à Courchevel, et puis maintenant... tout ça s'est développé et puis il y a des dameuses de partout. Quoi. Dans toutes les stations, on a sa dameuse.
Et à part les machines, vous étiez amené à découvrir de nouvelles pistes, à faire des tracés, aussi bien aux États-Unis, au Chili, qu'au Canada, qu'en France?
Oui, au début, vous savez, quand on va dans ces pays étrangers, surtout aux États-Unis, au moment où j'y suis allé, le ski débutait. Au Canada aussi, enfin, on faisait du ski, mais ça commençait. Quoi. C'était... Alors, quand on vient d'Europe... Vous êtes aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. On pense que du fait qu'on vient d'Europe, on a beaucoup d'expérience et qu'on sait tout faire. Alors quand on me demandait, voilà, il faut faire ceci, cela, moi j'étais un peu, vous savez, j'avais fait du ski, je skiais bien, au point de vue technique, je m'y connaissais, mais au point de vue de l'urbanisation d'un coin, des tracés de pistes, des emplacements de remontées mécaniques, et il a fallu que je me creuse un peu la cervelle au début, parce qu'on me laissait les mains libres, et il fallait que je prenne des responsabilités, et puis finalement, ça s'est bien passé.
Vous avez évoqué Daryl Zanuck, mais il y a d'autres personnalités qui vous ont vraiment marqué au cours de votre parcours. Alors, on a évoqué tout à l'heure aussi votre entraîneur, naturellement, autrichien, Rominger.
Oui.
Qui d'autre?
J'ai eu la chance de rencontrer Walt Disney. Et parce que sa fille faisait du ski en Sud-Californie, où j'étais au Mont Baldy. Et son père, un jour, est monté voir... Bon, lui, il ne faisait pas de ski. Il est monté voir donc sa fille. Et puis, donc, elle m'a présenté à son père, qui m'a dit... qui m'a parlé et tout ça. Enfin, moi, j'étais très fier de le rencontrer, parce que c'est un homme qui est fantastique. Et c'est un homme qui m'a appris beaucoup au point de vue du tourisme. Et parce que lui, il a toujours été dans l'amusement, enfin, dans le loisir aussi bien. Donc, il n'avait pas encore fait son fameux Disneyland, et il m'en parlait déjà. Il me disait, je vais faire quelque chose de formidable. Et en effet, avant de partir des États-Unis, j'ai été visiter, c'est lui qui m'avait donné donc sa carte pour que je visite son Disneyland, aussi bien à l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on voit, et qu'à l'intérieur, c'est-à-dire tout le mécanisme d'organisation intérieure, aussi bien les cuisines, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur de son Disneyland. Et ça m'avait impressionné. Et puis par la suite, il a organisé les loisirs, enfin surtout les festivités à Squaw Valley. Et là, je l'ai rencontré de nouveau. Et vraiment, je devais faire une station avec lui. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu l'autorisation parce que c'était dans la Sierra Nevada. Et là, il y avait la fameuse Sierra Club qui respecte les parties réserves, et on n'a pas pu la faire. C'est dommage, parce que je suis sûr qu'avec lui, on aurait pu faire une station fantastique. Parce que ses idées, et ça m'a servi beaucoup par la suite, pour voir ce qu'il fallait faire et pas faire, même dans une station.
Par exemple ?
Eh bien, c'est toujours considéré, par exemple... Les facilités, dans une station, quand vous arrivez en famille, ça existe encore dans nos stations, c'est pas disparu. C'est le parcours du combattant, hein. Aussi bien pour louer les skis, les remontées mécaniques, l'école de ski, etc. C'est toujours séparé, un côté, un de l'autre. Eh bien, lui, ça, il le voit tout de suite. Il dit, il faut faciliter les choses. Il faut, quand on arrive, faciliter de façon... On vient pour le plaisir, il ne faut pas gâcher ce plaisir par des petites choses comme ça, qui ont l'air de rien.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en application à Courchevel, notamment ?
Oui, enfin, j'ai essayé. C'est pas toujours facile de grouper tout, mais enfin, c'était un peu le but. Et je vous raconte aussi une autre histoire. Je pensais à lui quand je l'ai fait. Il y avait une dame, là près de mon bureau à Courchevel, il y avait une dame qui regardait son petit garçon qui faisait de la luge sur une petite pente, et elle était fatiguée. Dans la neige, on peut pas s'asseoir. Alors elle est rentrée dans mon bureau, il y avait une chaise, elle me dit... Avec la fenêtre, là, je peux voir mon petit-fils qui fait de la luge, là. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien, tout de suite, ça a fait tilt chez moi. J'ai dit, mais je vais tout de suite mettre des bancs. Alors, j'ai commandé des bancs. Et il y avait toujours des gens qui étaient là, qui regardaient. D'abord, qui regardaient les skieurs, qui ne faisaient pas du ski, mais ça les amusait. C'était un spectacle permanent, les skieurs qui descendaient de la piste. Et les gens, ça donnait un face au soleil. Et c'est une chose, vous voyez, c'est des petits détails, mais qui finalement font que les gens ont du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut voir, ça il me l'avait dit aussi, il faut l'amusement, il faut qu'il soit complet. Depuis les parents, les grands-parents, les enfants, etc. Les hommes, les femmes, etc. Et il faut chercher, quand on développe quelque chose, que tout cet ensemble soit tenu en compte et agréable.
Mais parfois, ça ne vous a pas ennuyé d'abîmer la montagne avec ces fameuses machines ? Vous parliez de ces difficultés d'implanter la station que Walt Disney aurait souhaité. Il y a eu des réactions, effectivement. Il y a toujours des réactions quand on plante des piquets, quand on déboise. Alors, comment est-ce que vous réagissez-vous par rapport à cela, Emile Allais ?
Bon, bien sûr, les remontées mécaniques, ça, on ne pourra pas empêcher qu'il y ait des pylônes et des câbles. Mais par contre, les pistes, je pense que les pistes... Même si on les traite bien, moi j'ai vu à Courchevel, on a vraiment bien traité les pistes, c'est-à-dire qu'on a passé le bulldozer, mais après on a engazonné, et bien ce sont devenus des prairies. Et les prairies, dans le fond, à la montagne, il n'y a rien de plus beau qu'une belle prairie. Bien sûr, au départ, on ne peut pas mettre toutes les belles fleurs qui existent, mais enfin, on peut déjà mettre du gazon et réengazonner, et de façon à ce que ça reste quand même très joli. Peut-être, moi j'ai un petit regret au point de vue de l'urbanisation des stations. Je pense que les architectes ont trop voulu laisser leur marque sur leur façon de construire ou de faire les bâtiments, qui n'ont pas toujours été très heureux dans les stations. Mais ça, bon, ça s'est développé tellement rapidement que on faisait ça, et puis peut-être on s'en rendait pas compte. Mais moi, je sais que ça m'a toujours un peu choqué. Et avec Walt Disney, nous avions parlé souvent avec les architectes de Walt Disney, et ils voulaient rester bien dans le cadre, justement, qui étaient les ranchs californiens, vous voyez. Il avait dit, il faut qu'on reste dans ce type de bâtiment, de façon à ce que ça ne défrise pas la montagne.
Émile Allais, le français de Megève, avait appris l'espagnol, avait appris l'anglais pour aller fréquenter l'ensemble des gens de Hollywood ou de certaines régions du Chili.
Oui, oh, ça n'a pas été facile. Hein. Tous les soirs, par exemple au Chili, on me faisait la leçon. Et je me souviens à Sun Valley où j'entraînais des jeunes. Le soir, quand on rentrait en autocar des pistes de ski, il y avait des jeunes qui me posaient des tas de questions. Et moi, je n'arrivais pas toujours à les comprendre. Puis des fois, leur accent n'était pas très bon. Et alors j'avais la tête qui éclatait. Alors des fois, il y avait des réceptions, on me disait « il faut venir », etc. Mais j'avais tellement la tête farcie d'anglais que je me disais « non, maintenant je me repose ». Non, ça c'est un peu un handicap, hein, mais enfin, finalement, ça s'est bien passé. Quoi.
Et maintenant, vous parlez couramment anglais, espagnol ?
Oui, couramment, bon, oui. Pas un très bon anglais, pas un très bon espagnol, mais si, maintenant, ça va. Oui.
Et alors, là-bas, donc, vous préparez les pistes, vous équipez les stations. Ça suppose aussi un certain nombre de connaissances en gestion et puis la capacité de discuter avec un certain nombre de décideurs.
Bon, moi, au point de vue gestion, si vous voulez, financière, j'avais pas trop mon mot à dire. Mais par contre, dans les investissements, il fallait quand même que je fasse attention. Par exemple, au point de vue des remontées mécaniques, mettre les appareils au bon endroit, de façon à ce qu'ils soient rentables. Et puis... faire une progression normale.
Et puis envisager aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les problèmes de sécurité.
Oui, bien sûr, tout ça va ensemble, quoi. Et par exemple, j'ai appris beaucoup, soit aux États-Unis, moins au Canada, mais aussi au Chili, le problème des avalanches. Et là, aux États-Unis, ils étaient déjà assez en avance sur nous, sur ce qu'on faisait. Par exemple, à Squaw Valley, on déclenchait les avalanches avec le canon. Et bon, chez nous, bon, on ne peut pas le faire chez nous parce que eux, là-bas, ils ont des autorisations beaucoup plus faciles de l'armée. Mais déjà, à ce moment-là, on déclenchait. Et maintenant, on le fait avec aussi des explosifs chez nous. Mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Et tout ça, je l'ai appris là-bas. Et ça m'a servi par la suite. Mais où j'ai surtout travaillé, c'est de rendre le ski facile et moins dangereux en préparation de piste. Et préparation aussi bien l'été que l'hiver, parce que l'été, bon, vous avez des creux, des bosses qui sont dangereuses, et bien on les enlève, ou des creux dangereux aussi, et bon, on les comble, on travaille avec des bulldozers. Je me souviens quand j'ai commencé à Courchevel avec des bulldozers dans les pistes là-haut, alors qu'on n'avait rien fait. Les gens étaient un peu épatés, quoi. Surtout que je demandais toujours le plus gros, parce que comme j'avais l'habitude des gros bulldozers aux États-Unis, je disais, mais vous n'avez pas un D9? Enfin, ça s'appelait des D9 Caterpillar. Et il n'y en avait qu'un en Savoie, ben, on me l'envoyait. Et quand cet engin arrivait là-bas, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet engin? Il me voyait partir avec ça. Puis on bouleversait des montagnes avec ça, on changeait les pistes complètement. Et on améliorait les pistes, on les élargissait, ben, ça permettait d'augmenter la capacité de descente des skieurs. Et puis surtout, au point de vue sécurité, au point de vue accident, on a beaucoup moins d'accidents quand les pistes sont bien préparées. Ça, on sait très bien en station que quand la neige est mauvaise, on a plus d'accidents. Et dans le fond, en préparant les pistes, on arrive à pratiquement plus avoir de mauvaise neige. Et ça, c'est important.
Lorsque vous êtes allé aux États-Unis, au Chili, les gens savaient qui vous étiez. Ils savaient que vous étiez triple champion du monde.
Ah oui, oui, ça, oui, oui, non, mais là, oui, oui, ils étaient. Oui, oui. Du reste, il y avait souvent des articles dans les journaux. J'ai eu la première page de Life, ce qui est assez exceptionnel. Et puis, dans divers journaux américains, et ça vous fait connaître dans toute l'Amérique, c'est sûr.
Et ça ne fait pas tourner la tête, ça ?
Oh non, 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 parce que, bon, on est là pour travailler. Puis il faut dire que moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était le début du ski. Je pense que si le ski avait été développé comme il est maintenant, quoique j'avais envie de revenir en France, mais je crois que si le ski avait été beaucoup plus développé, je serais peut-être resté aux États-Unis. Mais du fait que ça démarrait, que c'était encore un sport qui n'était pas très développé, quand on m'a fait la proposition de revenir en France à Courchevel, j'ai pas hésité.
Vous n'aviez pas la nostalgie des Andes chiliennes ?
Ah ben ça, le Chili est toujours resté un pays auquel je reste attaché. J'ai toujours de très bons amis là-bas. Du reste, j'ai développé Portillo. qui était, où, quand j'y suis allé la première fois, il n'y avait qu'un refuge militaire. Donc on a développé sa station qui marche très bien, où Kili et Marianne Gauthier ont fait des... Et puis toute l'équipe de France, du reste. En fait, j'ai de la chance parce que Squaw Valley, il y avait donc Vuarnet qui a gagné, la station que j'avais fait à Squaw Valley. Portillo, ils ont tout gagné aussi. Donc j'ai eu de la chance de voir les Français triompher dans les stations auxquelles j'avais participé au développement. Et puis j'ai développé aussi près de Santiago une autre station qui s'appelle la Parva. Et puis quand on a dessiné les routes, eh bien on appelait la rue Émile Allais. Alors maintenant, quand les gens... J'ai ma fille qui a été cet été skier là-bas et elle était très fière de pouvoir voir la rue Émile Allais. Alors ça fait plaisir aussi. Et puis il faut dire que le Chili est très international. D'abord, bon, forcément, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Allemands, il y a des villages dans le sud du Chili où ils sont complètement allemands. Vous rentrez dans un magasin, ils vous parlent allemand. Il y a beaucoup d'anglais, il y a aussi beaucoup de français. Donc il y a un mélange très sympathique.
Le sport s'est perverti avec les problèmes de sponsors, puisqu'on les appelle comme ça, oui. et puis de végétariat.
Oui, je ne sais pas, je suis très partagé là-dessus, parce que, admettons qu'on ne paye pas. Donc qui c'est qui pourrait faire ce sport? Les gens qui sont suffisamment aisés? Parce que moi, quand j'ai couru tout à fait au début, il y avait le prince Alonso d'Espagne qui courait, il y avait même un Aga Khan qui courait, enfin, etc. Quoi. Bon, ces gens-là, bien sûr, ils sont amateurs parce qu'ils le peuvent, mais prenez un petit fermier, un paysan de Megève, ben, il ne peut même pas se payer l'équipement, le prix où ça coûte. Alors si on ne l'aide pas, ben, il ne fait rien. Enfin, il fera bien du ski, bien sûr, mais il n'aura pas la joie de pouvoir faire des compétitions. Et ça, il faut quand même y penser. Vous comprenez, c'est un peu la bouteille à l'ancre, là. Et donc il faut bien les aider. Donc c'est toujours une question d'argent, bien sûr, mais si l'argent est bien donné, il ne faut peut-être pas en trop en donner à certains, voilà. Mais non, mais la plupart des gens, je trouve que les gens en général skient bien. Et vous savez ce qui m'a toujours étonné, justement, au sujet du plaisir de faire du ski, parce que moi j'ai enseigné. Et quand je voyais, par exemple, des débutants qui descendait une petite pente de 5 ou 6 mètres sans tomber, la joie. Et dans le ski, vous avez la joie tout le temps, parce que vous descendez vos 5-6 mètres, mais après vous tombez sur des pistes bleues, puis après sur des pistes noires, des pistes rouges, etc. Alors vous avez toujours du plaisir, vous avez toujours le même plaisir. Et c'est ça, il n'y a pas de limite en ski. On peut aller plus vite, on peut aller dans la neige qui est plus difficile, et tout ça, on trouve toujours son plaisir dans le ski, quoi, ce qui est une chose formidable. Et en plus de ça, regardez, le ski, vous n'avez pas de mécanique, vous pouvez aller vite, vous pouvez aller à 100 à l'heure, vous tombez à 100 à l'heure sur le ski, vous faites pas mal, parce que la neige amortit tout. Parce que vous savez, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de skieurs qui font cette vitesse-là et qui ne s'en rendent pas compte. Parce que moi, à la plaine, j'avais fait un kilomètre lancé pour des tests. Alors, bon, il y avait une balise où on faisait du 100 à l'heure. Mais nombre de gens disaient, mais moi, j'oserais jamais. Ils prenaient... Bon, la piste était très bien préparée, ils faisaient du 100 à l'heure, mais ils disaient, c'est pas possible, je croyais pas que je pouvais arriver à cette vitesse-là. Non, et ça, il faut dire que c'est fantastique au point de vue de ce sport. C'est que on est dans la nature, on a pas d'engin mécanique, c'est simplement par gravité qu'on descend. Et puis maintenant, il y a tellement de formes de faire du ski, aussi bien avec du mono, du surf, hein, tout ça.
Émile Allais, si vous aviez encore une vie devant vous, quel sport vous choisiriez? Où est-ce que vous aimeriez être champion?
Oh, je crois que je resterai dans le ski, je crois. Je pense bien. Bon, j'ai fait du vélo, pas mal. J'ai même failli être, partir comme professionnel, parce que dans la région, je marchais pas mal. Mais moi, je trouve que le ski reste un sport fantastique. Parce qu'on change toujours de piste, on change de paysage, c'est pas toujours la même chose. Quand je pense à ces pauvres nageurs ou ces patineurs qui patinent toujours sur cette même glace, dans la même eau et tout ça, et nous, on est là dans la neige, dans une belle nature, dans des paysages vraiment extraordinaires, avec chaque fois des changements, parce que où il neige, où il fait froid, où il fait beau, alors il faut s'adapter à tout. Je trouve que c'est ça qui fait le plaisir de la compétition en ski.
C'était la mémoire du siècle de Émile Allais, né en 1912, ancien champion du monde de ski alpin, une émission de Michel Chouchan, mixage Pierre Laïa, réalisation François Braignier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 février 1995. Émile Allais est mort centenaire en octobre 2012.